Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse, chapitre 8, et versets 1 à 6. Apocalypse, chapitre 8, versets 1 à 6. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, on va faire une révision un petit peu très rapide de ce qu'on a vu jusqu'ici la semaine dernière dans le texte. Là, puis ensuite, on va terminer l'exposition de l'ensemble des versets. Alors, le titre que j'avais donné au sermon, c'est l'ouverture du septième sceau. Et le septième sceau annonce des jugements. Alors, les jugements, dans le verset 1, on voit que les jugements divins sont préparés. Dans les versets 2 à 4, on voit que les jugements divins sont précédés de certaines choses. Et dans les versets 5 à 6, on voit que les jugements divins sont présagés. Ce qui est intéressant et qui est nécessaire de faire quand on lit le chapitre 8, parce qu'il est rattaché avec la fin du chapitre 6. Parce que si on ne fait pas ce lien-là, à quelque part, on manque vraiment quelque chose d'important. Alors, juste pour revenir un petit peu sur les idées maîtresses des différentes parties. L'idée maîtresse du chapitre 6, c'est que l'ouverture des six premiers sceaux avait été faite par le Seigneur sur un total de sept. Et c'est intéressant que le chapitre 7, on se rapportait à penser qu'il donnerait le septième sceau. Il n'a pas donné le septième sceau dans le chapitre 7, il a donné le septième sceau dans le chapitre 8. C'est intéressant de savoir pourquoi et comment ça s'articule, ces choses-là. Alors, juste question de souvenir, qu'est-ce que c'était les premiers sceaux? Donc, il y avait les quatre premiers sceaux qui étaient dans le verset 1 à 8 du chapitre 6. Pour vous dire que la partie qu'on est en train d'étudier, du chapitre 8, 1 à 6, est rattachée avec la fin du chapitre 6 de l'Apocalypse. Parce qu'il y a un chapitre entre les deux, c'est pour ça qu'il faut se rappeler, parce que si on ne se rappelle pas, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, les quatre premiers sceaux, c'était le cheval blanc. Le cheval blanc, il était monté, il y avait un cavalier qui était monté dessus, et on avait dit que l'interprétation de plusieurs commentateurs, je dirais conservateurs, voit cela comme étant le Seigneur Jésus qui sort pour commencer à prendre possession du royaume que le Père lui a donné et qu'il a conquis sur la croix et sur la terre lorsqu'il est venu faire son ministère. Donc, il part en conquérant. C'est pour ça que le cheval est blanc. Il part en conquérant. Et on sait que quand il va partir en conquérant, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde va dire « Oh oui, ok, on te laisse la place, ok ». Le malin va se mettre de la partie, le malin va s'opposer par une multitude de façons, et c'est ça les autres sceaux qui viennent après. C'est intéressant d'y voir. Le deuxième, c'était le cheval roux, et le symbolisme de ça, c'est que Satan et ses alliés, alors Satan a ses hommes sur la terre, qui sont bien souvent des chefs de gouvernement, qui sont souvent des hommes puissants, des hommes militaires, des riches, etc. Alors, il y a ses alliés, et ils vont faire la guerre au conquérant, qui est le Christ, qui veut prendre possession de son royaume. Et ils vont organiser de la persécution religieuse. Tous ceux qui ont déjà la moindre notion d'histoire de l'Église, à partir du début, à venir jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont déjà étudié un petit peu l'histoire de l'Église, vous allez voir que les persécutions, c'est quelque chose qui a été constant dans tous les siècles, dans presque tous les pays. Il y a des chrétiens qui ont souffert, qui se sont fait tuer, emprisonner, maltraiter, battu, manger par les bêtes et bien d'autres choses encore, brûler vifs comme des chandelles, etc., etc. Donc, le malin, il s'est interposé dans la conquête du Seigneur pour son royaume. Ça, c'était eux aussi, de ne pas oublier, quand on parle des guerres, on parle des guerres que Satan a pu créer pour s'opposer à l'avancement du royaume de Dieu. Mais il y a aussi les guerres, que moi j'appelle les guerres familiales. Quand vous êtes dans une famille puis que vous commencez à parler de l'Évangile autour de vous autres, est-ce que vous êtes toujours accueillis à bras ouverts? « Ah, ben je suis tellement content que tu me parles du Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement content que tu me donnes une solution pour aller au ciel. » Quand vous avez partagé autour de vous, c'est ça qui s'est passé? Achale-moi pas avec... Souvent ça, c'est ça. Quand c'est pas d'autre chose, des fois c'est encore pire que ça. Alors, il y a des guerres aussi. L'Évangile crée des guerres, même dans les familles aussi, que le Seigneur avait dit. Le cheval noir, lui, c'est le malin qui se sert de l'oppression économique. Il peut créer des famines, il peut créer des... En contrôlant, par exemple, les céréales, ou en contrôlant certains biens, en établissant les prix, tu peux jouer avec la famine dans certains pays, dans certains coins. Alors, il a utilisé le cheval noir, c'est vraiment le symbole de l'oppression économique que le malin a instauré dans à peu près tous les siècles dans le but de freiner l'avancement de l'Évangile. Le quatrième, c'était le cheval livide, qu'il appelle, ou verdâtre, dépendamment des versions. C'est vraiment les quatre mots universels. Parce que le quatrième sceau, ce sont des mots qui ont arrivé autant aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Le Seigneur a permis qu'il y a des choses qui se passent sur la terre qui touchent autant les chrétiens que les non-chrétiens. Et ils ont nommé par le cheval livide. L'épée, la famine, la mortalité et les bêtes sauvages. Et avant le cinquième chose, dans le verset 9 à 11, on avait les martyrs chrétiens. Au cours de l'histoire, là, des martyrs, il y en a eu, comme on pourrait dire, à la tonne. Et ici, dans le cinquième sceau, qu'est-ce qu'on voit? L'intervention des martyrs chrétiens qui disent à Dieu, « Jusqu'à quand tu jugeras pas nos ennemis? » Alors, c'est ça qu'il faut se souvenir de la question clé du cinquième. C'est juste quand ils disent, « Jusqu'à quand, ô souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » Dans le verset 10. Et après ça, on avait la réponse divine. La réponse divine, c'était jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fût accompli. Il est en train de leur dire, il y en a eu toujours, et il va toujours en avoir, et ça va continuer comme c'est là, quand il dit jusqu'à quand tu vas nous venger, je vais vous venger quand mon église va être terminée, complète, que le dernier élu va être rentré dedans. C'était pas une nouvelle si encourageante que ça pour que les autres en entendent, hein? Mais c'était ça quand même. Tu avais le sixième sceau, et le sixième sceau, c'est que là, dans le sixième sceau, le Seigneur a voulu faire comprendre qu'est-ce qui était pour arriver lorsque lui déciderait que là, le moment est venu de faire la vengeance. Et quand on lit le passage, c'est vraiment terrorisant. Parce que le Seigneur est en train de dire, voici ce qui va se passer lorsque je vais l'exécuter, mon jugement. Et je vais vous relire le passage, et ça nous dit que les hommes vont être morts de peur, qu'ils vont vouloir se terrer dans l'au-dessus de la terre, ils vont vouloir que les trous de la terre les couvrent, ils vont savoir que le jugement arrive bientôt, et ils vont être terrorisés. Je relis le passage, c'est intéressant, et je regardais lorsque l'agneau eut ouvert le sixième sceau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre. Et le soleil devint noir comme un sac de crin. Et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent, jette ses figues vertes. Et le ciel se retira, comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, tellement il était, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Quand tu lis ce passage-là, tu commences à imaginer toutes ces choses-là. Mm. Le soleil devient noir, la lune devient comme du sang, les tremblements de terre. Mm. Ils vont tous, les gens qui ne seront pas convertis, vont être morts, littéralement, de peur. Ils vont savoir que le moment du jugement est proche. C'est pour ça qu'ils vont dire, tombez sur nous, cachez-nous de la face de l'agneau. Ils vont terroriser. Et la fin de la question, c'est pour ça que je dis que c'est important, parce que ça dit, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Autrement dit, ça va être tellement gros, tellement épeurant, qui va être capable de résister à cela? Et dans le chapitre 7, la réponse, c'était qu'il va y avoir deux classes de personnes. On parle de l'Église militante et on parle de l'Église triomphante. L'Église militante, c'est celle qui est sur la terre, comme nous. On est dans l'Église militante. On est sur la terre, on lutte avec notre ancienne nature, on lutte avec Satan, on lutte avec les forces du monde qui veulent nous emmener dans leur cochonnerie. On est militer, ça veut dire lutter. On est dans la période de l'Église qui milite. Qui vont pouvoir subsister? C'est nous. Pourquoi? Parce qu'on est né de nouveau et que le Seigneur nous a donné la certitude de notre salut qu'on va se rendre jusqu'au bout. C'est ça que le chapitre 7 disait. Et en plus, il y avait l'autre partie du chapitre 7 qui parlait de l'Église triomphante. Ce sont les saints qui, eux, ont quitté cette vie, ils sont déjà rendus au ciel et ils sont en adoration devant Dieu. On avait parlé la semaine dernière aussi de que les événements sont pas successifs. Sont pas strictement successifs, mais qu'ils se chevauchaient. Ils sont à la fois contemporains et successifs. Je vous invite à relire vos notes, si vous voulez faire une étude du chapitre tranquillement. Puis gardez toutes ces choses-là à l'esprit, parce que ça aide vraiment à comprendre. Donc, les jugements, on avait regardé le chapitre 1, le verset 1, que les jugements divins étaient préparés. Et on voyait de quelle façon ils étaient préparés. Ils étaient préparés par le silence. C'est drôle parfois, comme des silences si lourds. Hein? Quand le Seigneur veut dire quelque chose d'important à la terre et aux habitants de la terre et à ceux qui sont sur la terre, souvent, c'est, on avait mentionné, parlé la semaine dernière, plusieurs passages, et je suis loin d'avoir épuisé tous les passages qui en parlent. Il y avait Habacuc, Sophonie, Zacharie. On avait regardé différents passages la semaine dernière où on voit que le Seigneur, lorsqu'il veut dire des choses importantes à l'humanité, souvent, il va utiliser le silence. Il y eut un silence d'une demi-heure. Il y avait une joke, que je me souviens, qui circulait dans les milieux chrétiens. Il disait, s'il y a eu un silence d'une demi-heure dans le ciel, c'est parce qu'il n'y avait pas de femme. on va dire... Non, je vous dis, c'est une farce plate que j'ai entendue. rien un peu. Prenons ça en rien. Donc, on parlait du silence d'une demi-heure. Le Seigneur se sert du silence pour qu'on puisse, qu'il puisse faire sentir aux hommes l'importance de ce qu'il veut leur dire. Il y avait le jugement aussi qui était précédé dans le verset 2 à 4. Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et on leur donna cette trompette. Et il vit un autre ange qui se tint près de l'autel et un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône et la fumée des parfums, avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Alors ici, il y a des choses qui sont mentionnées. Dieu se sert d'instruments pour amener ses jugements. Et les instruments qui se servent ici, on parle des sept anges. Donc, on avait parlé la semaine dernière que c'était fort possiblement des archanges à cause de certains passages où on parle des archanges. On avait vu dans Luc 1, 19, l'archange Gabriel, et on pense que ça pourrait être des archanges. Donc, l'instrument que Dieu se sert pour juger, c'est des archanges, et aussi les trompettes. Les trompettes, dans l'Ancien Testament, ça avait un rôle, une fonction. C'est souvent, c'est à utiliser pour plusieurs choses. Dans les guerres, Dieu demandait au peuple d'Israël de jouer de la trompette dans des circonstances particulières, et c'était souvent dans les cadres des guerres. Lorsque, par exemple, le Seigneur voulait détruire les ennemis et qu'il voulait provoquer leur chute, on se souvient de la question du mur de Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé avant que les murs s'écroulent? Le Seigneur avait dit, faites le tour de la ville, jouez de la trompette. La trompette est souvent utilisée comme un signe d'avertissement. Et c'est un symbole aussi de grande autorité. Quand le décalogue, le Dieu a donné les 10 commandements à son peuple, il y a eu aussi, ça dit dans Exode 20, 18, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Donc, les trompettes participaient à montrer l'importance de ça. Il y avait aussi, ça servait aussi de moyen de convocation lorsqu'il y avait des rois qui voulaient être établis rois. On convoquait le peuple. Alors, on avait vu comme dans 1 roi, chapitre 1, verset 34, le couronnement de Salomon. Il leur parlait, vous sonnerez de la trompette. Et aussi, ça servait comme proclamation de joie. Quand le peuple avait des grandes victoires sur leurs ennemis, souvent la trompette était utilisée pour exprimer la joie du peuple. Alors, la semaine dernière, on était rendu là, et on voit dans le verset 3 et 4 qu'il se sert de d'autres instruments, et l'instrument dont il va utiliser, c'est les prières des saints. Prières des saints, ça, c'est nous autres, nos prières. Il est en train de dire que les jugements qui vont venir sur la terre sont des réponses aux prières que nous on fait en Jésus-Christ. Si on ne fait pas le lien, là, faut faire le lien. Parce que si on fait le lien, on se rend compte que la puissance de la prière, on n'en aura jamais vraiment pleinement conscience. Le Seigneur répond à nos prières. Quand il y a des problèmes sur la terre, de quelque nature que ce soit personnel, national, international, faut prier. Et quand on prie, le Seigneur, il nous dit dans le texte ici qu'il répond. Il répond par des jugements. Si on était plus conscient de ça, pensez-vous qu'il se produirait plus de choses sur la terre? Moi, je pense que oui. On ne prie pas assez. On ne prie pas assez à cause qu'on ne voit pas l'exécution du jugement qu'on fait, de la prière qu'on fait, on ne voit pas. Tu sais, disons que je prie pour quelqu'un, disons, en Chine. Je le vois-tu, moi, ce que le Seigneur fait en Chine? Je ne sais pas. Mais une chose que je suis sûr, par les Écritures, le Seigneur me dit qu'il répond aux prières, quand c'est selon sa volonté. Alors, on ne prie pas assez, puis c'est aussi simple que ça. Dans Matthieu 6, le Seigneur nous a montré comment prier. C'est bizarre, comment quelqu'un qui nous a montré comment prier, quelle prière qu'il nous a donnée, notre Père. Vous donc, pardonne-nous, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, à jamais. Amen. Le Seigneur nous a montré comment prier. Si on prendrait, j'ai des livres à maison, 300 pages, juste une analyse du Notre Père. Il faut le faire, là. Il y a tellement de matériel là-dedans, là, que des fois on lit ça, pense pas aux mots, ce qu'ils signifient, ce que Dieu fait avec ça. C'est extraordinaire. Et il y a une autre chose qu'ils nous ont rappelé dans Romains 8, 26 et 27. Quand on prie, souvent on dit des choses qui ne plaisent pas à Dieu. On prie, comme ça dit dans Jacques, pour satisfaire nos convoitises charnelles. Et la parole, elle nous rappelle que Dieu a pitié de nous par le Saint-Esprit. Il vient compléter nos prières. Probablement que le Saint-Esprit doit dire, mais ce qu'il veut dire, c'est ça. Là. Alors, regardez, ils disent dans Romains 8, versets 26 et 27, « De même aussi, L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On a cette consolation-là que peu importe la pauvreté de nos prières, le Saint-Esprit les améliore et les présente à Dieu. C'est un peu comme si nous autres, on voudrait faire un cadeau à quelqu'un, puis notre cadeau serait tout mal emballé, puis qu'il ferait dur, puis qu'il y aurait quelqu'un qui n'aurait pas fait d'arrêt de nous autres pour rendre notre affaire présentable, comme on pourrait dire. Tu as aussi le psaume 141, versets 1 et 2, où on parle de nos prières comme étant un parfum. Nos prières, c'est un parfum. C'est drôle qu'on ne prenne pas conscience de ça. Ça prend des années avant qu'on prenne conscience de l'importance de la prière. Je l'ai dit, je le répète encore, c'est important que vous veniez à vos soirées de prière. Psaume de David éternel, je t'invoque, hâte-toi de venir à moi, prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Que ma prière vienne devant toi comme le parfum et l'élévation de mes mains comme l'oblation du soir. Voyez-vous, dans la version Louis II, dans le même verset, au lieu de dire que ma prière vienne devant toi comme le parfum, ça dit que ma prière soit devant toi comme l'encens. L'encens, c'était utilisé pour quelque chose comme une odeur qui plaît à Dieu. Nos prières plaisent à Dieu. Tu sais, des fois, on veut faire plaisir à quelqu'un, on dit, que c'est que je ferais bien pour faire plaisir à un tel? On sait qu'il aime ça, disons, je ne fais pas, mais aller au restaurant. On sait qu'est-ce qu'il aime en plus, on l'amène au restaurant, ce qu'il aime. On fait quelque chose de volontaire dans le but de plaire à quelqu'un. Le Seigneur, il nous dit ça, qu'est-ce qui plaît, lui. La prière, ça lui plaît. Pour lui, c'est comme une odeur de parfum. Alors, les Saintes Écritures nous enseignent aussi que le Christ intercède pour les siens. Très intéressant aussi de voir, verset Romains 8, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Jésus, le Christ qui est au ciel maintenant, il intercède pour chacun de nous. Avez-vous déjà pensé à ça? Vraiment sérieusement, t'assois, tu dis, Jésus qui est pleinement Dieu, avec l'ensemble de ses attributs, que tout est infini, et il, pour toi, là, personnellement, prie pour moi. Quand on prend conscience de ça, on se dit « Gloire à Dieu qu'il y a quelqu'un qui prie pour moi. » Puis « Gloire à Dieu qu'il y a l'Esprit qui vient compléter mes prières et les rendre acceptables aux yeux de Dieu. » Troisième point, c'est le verset 5 et 6. Ça dit « L'ange prie l'encensoir. » L'encensoir, c'est l'encens qui est dedans, qu'on envoie devant Dieu. « Le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. » Et c'est ça ici, il faut voir dans le verset la réponse de Dieu. Mais il faut la lier avec les demandes, les prières qui ont monté devant Dieu, qui sont agréables à son nez, on pourrait dire. Si on peut parler d'un nez pour Dieu, on parle des yeux, on parle des oreilles, mais ce n'est pas vraiment un nez comme le nôtre. Là, mais ça dit que Dieu... Pour lui, les prières des saints, ça lui est agréable. Et on pourrait dire, ah, oh, ben c'est le fun, c'est agréable, prions, prions, ça va être agréable à Dieu. Mais ça dit aussi qu'il y a une réponse, parce que la réponse est donnée dans le verset, il y eut des voix. Le Seigneur parle par tous les événements qui se produisent sur la terre. C'est ça qui veut dire des voix. Le Seigneur envoie les choses sur la terre, et ceux qui ont des oreilles spirituelles, ils entendent les voix de Dieu. Il y eut des voix, des tonnerres. C'est quoi un tonnerre? Moi, j'ai connu des gens qui étaient terrorisés juste à entendre le tonnerre et ils étaient prêts à aller se cacher en dessous du lit. Ça existe, ça. Les gens, il y a certaines personnes qui sont terrorisées par le tonnerre. Ici, il est en train de dire que par les prières des saints, Dieu va envoyer non seulement des voix, mais il va envoyer des tonnerres. Qu'est-ce que c'est? C'est un cran plus élevé qu'une voix. Parce qu'une voix, il parle, les gens ne comprennent pas. Des fois, tu élèves le ton un peu. Là, le tonnerre, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu l'entends. Parce que ça implique un jugement de nature plus élevée, plus sévère. Après ça, ça dit des éclairs. Qu'est-ce que ça fait un éclair? Quand tu vois un éclair dans le ciel, juste un petit peu avec ta tête, tu vois ça dans le ciel, tu sais qu'à peu près une seconde ou deux secondes après, tu m'entends. Bing! Il y a des fois que c'est assez fort là, que tu lèves quasiment d'un pied de haut. Moi, je n'ai déjà entendu des fois à certains endroits que c'est vraiment épeurant. Donc, le Seigneur, il dit des éclairs et un tremblement de terre. Est-ce qu'il veut nécessairement parler ici juste du tremblement de terre ou ce que la terre te branle en dessous de toi? Ou bien là, s'il veut parler de choses qui vont se produire sur la terre, qui vont produire un peu l'effet psychologique du tremblement de terre? Moi, je pense que c'est les deux. C'est les deux. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Voyez-vous, on est rendu au chapitre où l'Éternel est en train de passer des sceaux. Le septième sceau est cassé. Vous vous souvenez que ça marche tout par sept, hein? Sept sceaux. Là, il est en train de te préparer à l'ouverture des sceaux. L'ouverture, pas des...
Des sceaux.
Des sceaux. Il y a l'ouverture des sceaux, mais après ça, ça passe aux sept trompettes. Et cette trompette, autrement dit, c'est que le Seigneur va amener les jugements en réponse aux prières des saints. Et les sept trompettes sont des jugements. Vous allez voir, quand on va avancer dans le chapitre, voir que les trompettes vont être de plus en plus sévères, les choses vont être de plus en plus. Et moi, je trouve que ça donne bien qu'on parle de l'Apocalypse en ces temps-ci. Parce que le Seigneur, il y en a des voix, présentement. Il y en a des tonnerres, présentement. Il avertit. Les gens sont sourds, ça, c'est pas son problème. Le Seigneur envoie toutes sortes d'événements sur la terre pour amener les gens à réfléchir, amener les gens à se repentir. S'ils ne le font pas, ça devient leur problème. Alors, les prières des saints ne restent pas sans réponse. C'est très intéressant. Des fois, quand on traverse une période comme celle qu'on est en train de traverser, on prie le Seigneur et il va répondre à nos prières par des jugements qu'il va envoyer sur la terre. Pensez-vous, sérieusement, là, qu'avec le nombre de chrétiens qu'il y a sur la terre actuellement, si tout le monde serait sur leurs genoux, et si tout le monde implorerait Dieu avec ferveur, il ne se passerait pas quelque chose? Parce que le Seigneur, il ne parle pas juste aux païens, là, par ces événements-là, il parle à nous également. Alors peut-être que c'est un temps pour nous de réfléchir et de dire, qu'est-ce que j'ai de pas correct dans ma vie? Seigneur, montre-le-moi de manière à ce que je m'ajuste, que je mène une vie plus sanctifiée, que je mène une vie, un service, que je sois ton service continuellement, que j'annonce l'Évangile, comme François nous a dit. Annoncer l'Évangile, il y a des gens autour de nous, il y a plein de monde qui ne sont pas sauvés. Que le Seigneur nous enlève nos peurs, que le Seigneur nous remplisse de courage pour parler de lui autour de nous. Alors, l'encensoir qui a servi à offrir les parfums avec les prières des saints sur l'autel d'or est maintenant rempli du feu de l'autel. Ce feu, jeté sur terre, provoque le déchaînement des éléments annonciateurs d'événements terribles. Des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Les événements qui se déchaînent juste après se font donc pour Dieu et au nom de Dieu. Le lien qu'il y a à faire entre la puissance de nos prières et les jugements que Dieu envoie sur la terre en réponse à nos prières, plus on va le faire, plus qu'on va être efficace. Donc, c'est vraiment les choses qu'on va voir, c'est des manifestations de la majesté de Dieu et des signes du déversement imminent. C'est comme le Seigneur, septième saut, là, les trompettes vont se mettre. Quand la première trompette se met à jouer, c'est des signes que le Seigneur est en train d'envoyer des jugements sur la terre d'une grande sévérité. C'est drôle pareil, hein, parce que quand vous allez lire l'Apocalypse, vous allez continuer de lire l'Apocalypse, malgré tous les avertissements que le Seigneur va envoyer à la terre va continuer à être sourde et à continuer à pécher. Ils vont savoir que ça vient de Dieu, puis ils vont continuer à pécher pareil. Ça nous donne-tu une idée de la profondeur de la corruption du cœur humain? Malgré qu'ils vont savoir que les jugements viennent de Dieu, ils vont continuer quand même à pécher. Quelques applications sur le texte qu'on a étudié la semaine dernière et celui de cette semaine. Le premier, c'est apprenons sur le silence dans les Saintes Écritures. Si quelqu'un prendrait le temps, prendre une concordance, sortir tous les versets où le Seigneur utilise le silence comme moyen de communication avec les hommes ou avec les saints, on serait surpris de voir. Tout dans les Écritures nous parle. Alors, quand il nous dit que dans le ciel, avant qu'il commence à jouer la première trompette, il y a eu un silence, c'est un silence qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Attelez-vous, préparez-vous. Alors, ça traduit le silence souvent dans l'attitude que nous devrions avoir devant la majesté de Dieu. Si on reprendrait les versets qu'on a étudiés la semaine dernière. Quand on se présente devant Dieu, on est tellement pressé d'ouvrir la bouche. Si on prendrait conscience devant qui on se trouve, peut-être qu'on ne parlera pas un mot. Moi, c'est ma conviction. On ne parlera pas un mot. Parce que la personne devant qui on se trouve est tellement grande, on serait étouffé. On ne saurait plus quoi dire. Donc, on devrait... Le silence, quelque chose... qu'on devrait avoir devant la majesté de Dieu, qui devrait provoquer chez nous de la crainte et qui devrait nous faire voir la profondeur, la richesse et l'étendue de chacune de ses perfections. Dieu est tellement grand. Plus je vieillis dans la foi, plus je me rends compte de ça. Souvent, le Dieu qu'on a dans notre esprit, c'est un Dieu Père Noël. C'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est d'une grandeur insondable. C'est ça qui est difficile à imaginer pour nous. C'est pas quelque chose qu'on est. Quand la Bible nous dit que même quand on va être rendu au ciel, l'éternité est long, hein? C'est long l'éternité. Elle ne suffira pas pour nous faire découvrir toute la richesse, toute l'étendue et toute la profondeur de chacune des attributs de Dieu. Pensez-y, là, qu'on se trouve devant ce Dieu-là, on va vous dire, si on était vraiment pleinement conscient, on ne dirait pas un mot. Tellement on aurait une crainte de lui. Donc, le silence dans les Écritures nous enseigne aussi que le Seigneur fait précéder les grands événements et les révélations, certaines des révélations qu'il veut donner à la terre et aux siens. Il est fait précéder d'un silence. Autre chose par rapport au silence. Apprenons aussi que le malin, lui aussi, il a un seul silence. Surtout le silence dans les églises. Il veut nous faire taire. Il veut qu'on arrête les cultes. Il fait tout ce qu'il peut pour qu'on arrive, qu'on s'en aille dans cette direction-là. Alors, il veut qu'on arrête notre culte à Dieu, personnellement, familialement, ecclésiologiquement, qu'on pourrait dire. Il est prêt à utiliser absolument tous les moyens, que ce soit du mensonge, n'importe quoi, pour qu'on arrête. C'est à réfléchir. Le diable veut œuvrer sans relâche pour contrecarrer l'enseignement des églises, empêcher les réunions, empêcher les prédications, empêcher les cultes tout court. Depuis 3-4 mois, sa moyenne au bâton est très bonne. Alors, préparons-nous dès maintenant à résister aux persécutions de cette période en étudiant et en fortifiant notre foi. et fixons du regard le règne de paix qu'apportera le royaume de Dieu. Deuxième application, donc la première c'est sur le silence. La deuxième, méditons sur la très grande importance de la prière des saints. C'est nous ça. Si on est un croyant, on est un saint. Donc à quelque part, c'est important pour qu'on prie si peu. Les grandes questions comme ça, on peut poser juste une question qui peut venir nous sonder profondément. Si tu dis que la prière est importante, comment ça se fait que tu ne pries pas plus que ça? Alors, préparons-nous et méditons sur la très grande importance de la prière des saints. Et nos prières, apprenons aussi à les harmoniser avec la volonté révélée de Dieu. Plus tu vas connaître ta Bible, plus tu vas prier intelligemment, plus tu vas prier sagement. Il y a des livres qui ont été écrits sur prier bibliquement. Plus tu vas connaître ta Bible, plus tu vas prier selon la volonté de Dieu. Il y a un lien. Troisième application, les jugements de Dieu sur ses ennemis et sur son peuple seront d'une grande sévérité. Ils sont inévitables. Des fois, on pense que Dieu juge les païens et là, on applaudit. Mais quand la Bible dit « Dieu juge son peuple », hop, là, on applaudit un peu moins fort. Pourtant, s'il envoie des jugements qui concernent son peuple, c'est parce que son peuple en a besoin. Et au cours de l'histoire, lisez votre Ancien Testament, vous allez voir le nombre de fois que le Seigneur a jugé son peuple. Il y en a une multitude de fois. Alors, quelque part, il continue de faire la même chose de nos jours, il ne faut pas oublier ça. Alors, avertissons les pécheurs sur l'urgence de se réconcilier avec Dieu pendant qu'il est encore possible. Écoutez le témoignage de François tantôt. Il dit à un homme, si tu décèdes, là, dans une minute, là, peux-tu savoir que tu vas t'en aller? Mais s'il n'est pas réconcilié avec Dieu, là, il décède là, là. Ça va en enfer, l'éternité, il est fait, il va aller là, puis il va y rester, puis il ne ressortira jamais de là. C'est urgent de parler de l'Évangile autour de nous, très urgent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on est dans les temps de la fin, que le retour du Seigneur est proche. Alors si ces gens-là ont raison, on a vraiment intérêt à partager l'Évangile autour de nous, de plus en plus fréquemment, avec de plus en plus de ferveur, avec de plus en plus d'amour. Prendre de l'amour pour partager l'Évangile. Parce que chaque fois qu'on partage l'Évangile, on est toujours mal reçu. Alors, on n'est pas peut-être à se fermer à la boîte, puis à se croiser les jambes et les bras. Ça prend du courage. Tu sais que tu vas être mal reçu, mais il faut que tu le fasses pareil. Ça, c'est ça, le vrai amour. Alors, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit loué, béni et adoré à tout jamais. Amen.
Amen.